Studio à Paris, l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec Michaël Ponge. Bonjour Michaël.
Bonjour Juliette, merci. Les 9h10 à Port-au-Prince. L'impossible rentrée des classes en Haïti, elle aurait dû avoir lieu hier, impensable et impossible donc compte tenu du contexte social et des pénuries de carburant. On en parle avec notre confrère Godson Pierre d'Alter Press dans un instant. Notre dossier du jour nous emmènera lui au Chili où les enfants des classes populaires souffrent plus que les autres d'obésité. Le Québec, le Brésil aussi à la une, ce sera avant de vous retrouver Benoît Ferrand pour évoquer ensemble les problèmes dans les transports en commun en Martinique.
Eh oui, le service a partiellement repris hier après-midi sur les deux lignes du TCSP, transport en commun en site propre, mais les problèmes de panne de batterie restent récurrents.
On se retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît, pour le journal de la première. Bienvenue à tous.
RFI à Gonaïves, 90.5 FM.
Pas d'essoufflement en Haïti. Les manifestations anti-gouvernementales pour réclamer la démission du Premier ministre Ariel Henry se poursuivent à travers tout le pays, comme ici, dans le Nord, au Gonaïves, où l'on a entendu hier des slogans anti-américains. Abba les Américains qui soutiennent Ariel Henry, vive la Russie, dit ce manifestant dans une vidéo postée par notre correspondant Ronel Paul. Des manifestations aussi au nord à Cap-Haïtien et bien sûr dans la capitale, Port-au-Prince. Tandis que dans le sud, au Caï, la majorité des manifestants, ils étaient plusieurs centaines, portaient eux des uniformes d'écoliers, pieds de nez, à la rentrée scolaire qui était prévue hier lundi en Haïti. Mais dans un tel contexte, comment aurait-elle pu avoir lieu? On se le demande. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef de l'agence en ligne Alter Press avec nous. Depuis Port-au-Prince, Godson, cette rentrée a tout simplement été un échec.
C'est bien le cas de le dire, Michael. Aucun élève en uniforme n'a été remarqué dans les rues de la capitale où plusieurs écoles ont appelé la veille les parents à garder leurs enfants à la maison en attendant une évolution de la situation socio-économique. La crise depuis plusieurs mois du carburant empêchant le fonctionnement des véhicules de transport en commun et le climat de terreur entretenu par les gangs armés sont à l'origine de cette perturbation de la rentrée scolaire, alors que de nombreuses autres activités demeurent paralysées, une paralysie qui dure depuis plusieurs semaines.
Avec donc le Premier ministre sommé de quitter son poste par la rue, et pourtant, Ariel Henry serait au cœur d'un nouvel accord pour tenter de résoudre la crise. C'est à la une de votre site, Godson. Des tractations seraient sur le point d'aboutir pour organiser des élections fin 2023.
Et c'est en tout cas l'annonce faite par les acteurs impliqués. Un accord politique devrait être paraffé d'ici demain afin de mettre en place un haut conseil de la transition de 5 membres, dont 3 du secteur politique, 1 du secteur privé et 1 autre de la société civile. Le HCT aura à sa tête un président, tandis que le premier ministre de facto Ariel Henry, très décrié et ciblé par de nombreuses manifestations à travers le pays, gardera son poste suivant le plan prévu. Autre prévision, la mise en place d'un organe de contrôle de l'exécutif et d'un conseil électoral. Une ombre au tableau, cependant, le mouvement Montana a par avance dénoncé ce processus comme étant un complot entre des instances internationales et des collaborateurs locaux pour diviser la société.
Voilà, pour la politique dans ce contexte, et comme si tout cela ne se suffisait pas, Godson, on en parle depuis hier, le choléra refait parler de lui en Haïti. Dimanche, les autorités annonçaient au moins 7 morts. Difficile de ne pas faire le lien entre le contexte du moment et la résurgence de la maladie, comme l'explique Benoît Vasseur. Il est chef de mission pour Médecins sans frontières sur la zone de Martissant à Port-au-Prince. On l'écoute et on se retrouve juste après, Godson.
Le manque d'eau potable et la promiscuité de la population dans des conditions d'hygiène qui ne cessent de se détériorer, il est bien évident que le terreau pour que la maladie se développe est idéal. Nous sommes inquiets qu'on n'ait toujours pas identifié l'origine de la contamination. Ce qui nous inquiète, c'est aussi le fait qu'on a deux origines géographiques différentes de contamination. L'une à Cité-Soleil et l'autre à proximité de Martisson. C'est pas bon signe parce que ça prouve qu'il y a deux foyers de contamination et que s'il y en a deux, il peut y en avoir d'autres. Le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé une réunion d'urgence. Il coordonne donc la réponse à la possible épidémie avec les partenaires qui sont présents sur le territoire. MSF, d'autres organisations humanitaires et les agences des Nations Unies.
Voilà, Benoît Vasseur, chef de MSF en Haïti, sur la zone de Martisson. Godson Alter Press consacre évidemment un article sur le choléra. On l'entendait, une principale préoccupation, c'est le problème d'accès à l'eau essentielle pour l'hygiène, cette eau qui se fait de plus en plus rare.
C'est bien la pénurie en eau potable qui, selon les autorités sanitaires, pousse les habitants de diverses communes à consommer des eaux mal ou non traitées. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, annonce de son côté qu'elle se trouve en grande difficulté pour purifier les eaux captées à cause de la rareté de carburant. Et une des principales compagnies privées de traitement d'eau annonce aussi, pour la même raison, l'arrêt de ses opérations.
Pierre, rédacteur en chef d'Alter Press, avec nous, tout ça qui est à retrouver sur votre site.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Voilà, en bon français, 9h16 à Québec. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Vous nous emmenez donc au Québec où se tenaient hier les élections législatives, scrutin qui permet à la coalition de droite au pouvoir depuis 4 ans de se maintenir. Elle est largement réélue.
Oui, Québec réélit Legault avec une majorité écrasante, titre en une de Globe and Mail. François Legault, le premier ministre sortant, se retrouve donc selon le National Post en position de force grâce à sa majorité qui devrait passer de 100 à 120 sièges et un gouvernement fédéral affaibli. Bref, il devient l'homme politique le plus puissant du pays. Mais Le Devoir estime que cette victoire est due au mode de scrutin uninominal à un tour. Jamais dans l'histoire du Québec, une distorsion entre la volonté de la population et son expression à l'Assemblée nationale n'a paru aussi grande, écrit le journal francophone, qui parle de déficit démocratique. Explication en chiffres avec Le Devoir. Au moment où ces lignes étaient écrites, 1h du matin, 14% des voix valaient 22 députés au Parti libéral. Les conservateurs, eux, récoltaient 13% des suffrages, mais repartaient bredouille. Après ces résultats, un des éditorialistes de la presse parie sur une réforme du mode de scrutin.
Le Premier ministre sortant, vous avez donné son nom, Christophe. François Legault reste donc à son poste pour 4 années de plus. Qui est-il ?
Eh bien, c'est un ancien homme d'affaires, c'est ce qu'écrit le Globe and Mail, ancien homme d'affaires qui, il y a 4 ans, promettait de mettre en sourdine le débat sur la souveraineté du Québec et surtout en ordre de bataille économique, la province canadienne. Hélas, soupire le journal, M. Legault n'a pas entrepris les réformes attendues et a fait des questions d'identité le leitmotiv de son premier mandat, réduisant l'immigration et renforçant l'usage du français. Ce qui a contribué, selon Le Devoir, à son petit score sur l'île de Montréal, un unique siège qui vient encore creuser le fossé entre la métropole et le reste du Québec. Ce dimanche, François Legault a promis d'être le premier ministre de tous les Québécois, mais, écrit la presse, divisé pour mieux régner en promettant ensuite de panser les plaies, n'est pas la manière la plus convaincante de rassembler.
Et pendant ce temps, au Brésil, c'est une nouvelle campagne présidentielle qui débute, celle du second tour qui opposera le 30 octobre le sortant Jair Bolsonaro, arrivé dimanche soir en seconde position du premier tour, derrière l'ex-dirigeant de gauche, Lula. 5 points, c'est par les deux hommes bien moins que prédisaient les sondages. Sara Cozzolino est allée à prendre le pouls auprès des électeurs des deux camps à Rio.
Ronaldo Cunha ne fait plus confiance aux instituts de sondage depuis longtemps. Ce dimanche, il s'attendait à une victoire au premier tour de son candidat Jair Bolsonaro.
On a eu peur car on n'attendait pas Lula en première place, notamment parce que toute la mobilisation dans les rues et sur les réseaux sociaux était pro-Bolsonaro. Donc nous sommes convaincus qu'il y a eu des fraudes au Brésil.
Mais Ronaldo se dit très satisfait du résultat des élections législatives en faveur du camp conservateur.
L'état de Rio de Janeiro a une base bolsonariste très importante, sans compter les partis alliés liés au parti du président.
C'est justement cette vague conservatrice qui a littéralement paniqué Victor Camelo à l'annonce des résultats.
J'ai commencé à être très angoissé. J'étais tout seul. Je me suis dit direct, je vais trouver mes potes pour qu'on soit ensemble parce que c'est un moment très dur pour nous tous.
Cet électeur de gauche n'arrive pas à comprendre comment, après 4 ans de gouvernement de Jair Bolsonaro, certains Brésiliens soutiennent encore le président.
Ça me déçoit dans un sens où je n'imaginais pas que la moitié du pays pouvait supporter un candidat qui a montré tellement de foi qu'il est tout simplement une personnalité absurde.
Victor avoue se sentir inquiet pour la suite de la campagne qui promet d'être très tendue. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Avant de poursuivre en Amérique latine, on fait un crochet par les États-Unis, Christophe, avec cette enquête accablante très attendue, publiée hier au sujet des agressions sexuelles dans le foot féminin, accablante au regard des faits et de l'inaction des instances dirigeantes.
Oui, voici les premières lignes du New York Times qui reprend le rapport. Un entraîneur a demandé à une joueuse de venir analyser la vidéo de la partie et, à la place, lui a montré de la pornographie. Un autre était connu pour alternativement réprimander les joueuses et leur poser des questions sur leur vie sexuelle. Un troisième a contraint de multiples joueuses à avoir des relations sexuelles avec lui. Un club de haut niveau a fini par le licencier. Mais quand un autre club l'a engagé quelques mois plus tard, le premier n'a rien dit à propos. Publiquement lui souhaiter bonne chance. Le rapport constate que ces comportements sont systémiques dans tout le football féminin aux États-Unis, y compris dans les clubs destinés aux plus jeunes, écrit le Boston Globe. USA Today demande des actes, que les propriétaires des équipes où se sont produits ces abus soient forcés de les vendre. Ces hommes ont aidé et encouragé les entraîneurs qui abusaient des joueuses et dans certains cas les ont eux-mêmes harcelées. Ils ne doivent pas pouvoir tirer profit du sport féminin quand clairement ils méprisent celles qui le pratiquent. Et si rien n'est fait, ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres femmes en paient le prix.
Tout autre chose, Christophe, on évoque la tournée latino-américaine d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, qui se rend au Chili, au Pérou. Il était hier en Colombie.
Où il a rencontré Gustavo Petro pendant plus de 2 heures. Une rencontre cordiale, jugeaient les spectateurs, après de nombreux autres ces dernières semaines, entre Petro et des émissaires de Joe Biden, ainsi que le Congrès américain. La Colombie, traditionnelle alliée des États-Unis, étant passée à gauche, les deux gouvernements sont en train de faire connaissance, estime une spécialiste. Ils cherchent des terrains de travail. Commun. Alors ce lundi, raconte La Repubblica, lors d'une conférence de presse commune, Anthony Blinken a parlé de Gustavo Petro comme d'un leader mondial en matière de lutte contre le changement climatique. Il a également souligné le tempo, affirmé que les États-Unis appuyaient fermement son approche globale de lutte contre la drogue. Mais quand Gustavo Petro a estimé que la présence de Cuba sur la liste des promoteurs du terrorisme était une injustice, alors que la Havane a aidé la Colombie à atteindre la paix, là, Michael, Anthony Blinken a été beaucoup plus prudent.
Christophe Paget, votre revue de presse à retrouver sur RFI.fr. C'est un fléau mondial qui touche en particulier les classes populaires. L'obésité fait des ravages au Mexique, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, triste podium, et juste derrière ces trois pays, le Chili. Écoutez bien, 54% des enfants souffrent de malnutrition par excès. 75% des jeunes de plus de 15 ans sont en surpoids ou obèses. Le Chili est le 4e pays au monde, donc le plus concerné. Alors, des associations tentent d'y remédier. Reportage à Santiago, Neila de Rouanet.
À La Pintana, une commune dans le sud de Santiago, la fondation Foyer Enfant Jésus distribue une fois par semaine des paniers de fruits et légumes pour le prix de 1 euro. Une quinzaine de femmes font la queue et la majorité sont en surpoids. Dans la file, Sandra, sans emploi, s'occupe de sa fille qui est autiste. Elles viennent ici chaque semaine.
Ils nous ont donné du céleri, de la coriandre, des blettes, des mandarines, des patates, des pois chiches, un poivron. Au marché, tout est très cher en ce moment. Par exemple, un petit bouquet de céleri coûte entre 2 et 3 euros.
Mais là, pour 1 euro, Sandra a rempli son chariot.
De cette manière, je peux dépenser un peu plus d'argent pour d'autres choses. Avant, je ne pouvais pas acheter de fruits, mais maintenant, je vais pouvoir acheter des bananes, par exemple, et aussi de la nourriture. Pour mes chiens.
La distribution terminée, l'équipe de la fondation remonte dans sa camionnette. Julia Lespinacé est la directrice. En conduisant, elle raconte que l'organisation répartit ses colis alimentaires depuis 5 ans.
À partir de 2017, nous avons commencé à distribuer tout type d'aliments, même du Coca-Cola et des chips. Mais on s'est rendu compte que ces types de produits provoquaient de l'hypertension chez les adultes et de l'obésité chez les enfants. Et donc, en 2019, notre vision a changé et on s'est dit que si réellement on voulait aider ces personnes, il fallait leur donner des aliments sains.
Au Chili, c'est dans les années 90, après la dictature, avec une bonne croissance économique et les traités de libre commerce, que la transition vers une alimentation industrialisée commence. Daniel Egaña Rojas est anthropologue à l'Université du Chili. Selon lui, il faut aussi considérer un facteur culturel. Il donne l'exemple des boissons gazeuses sucrées très consommées au Chili.
C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais à une époque, ces biens de consommation donnaient une sorte de statut. On les consommait le samedi ou le dimanche, c'était un luxe. Le fait de boire uniquement de l'eau maintenant, ça peut être considéré comme un geste de pauvreté.
Mais selon l'académicien, le vrai défi aujourd'hui, c'est l'augmentation du salaire minimum.
Il y a beaucoup de personnes qui ont un petit revenu qui leur permet d'acheter des produits caloriques pour s'alimenter, mais pas pour se nourrir sainement dans le cadre de cette transition nutritionnelle, on passe donc d'une alimentation traditionnelle à une alimentation avec des produits ultra transformés qui provoquent de l'obésité inévitablement.
Et en conséquence, les Chiliens souffrent de nombreuses maladies comme
les infarctus, les cancers, l'hypertension, la diabète, des problèmes de démence.
Guido Girardi est médecin et ancien sénateur. Il est à l'origine de la loi qui oblige les entreprises d'agroalimentaire à indiquer à travers d'étiquettes simples les taux de sucre, graisse, sodium et calories dans leurs produits.
Il y a 25% de tous les produits au Chili, ils ont baissé leur niveau de sel, baissé leur niveau de graisse, baissé leurs calories, baissé leur niveau de sucre. Ça, c'est très important.
Pour l'ex-parlementaire, le Chili est un laboratoire de ce qu'il va arriver dans le monde.
Ce que ont fait les grandes entreprises des aliments ordures, c'est justement remplacer les aliments traditionnels de chaque culture latino-américaine, indienne, qui étaient très sains pour de l'ordure. Ce sont les mêmes aliments, ce sont les mêmes boissons, ils sont partout dans le monde.
Selon lui, l'une des solutions serait de taxer les entreprises de l'agroalimentaire, comme c'est le cas pour les cigarettes ou encore l'alcool. Naïla Derouané, Santiago, RFI.
10h26 à Santiago, une heure de moins à Fort-de-France.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
On est en Martinique. Le service a partiellement repris hier sur les deux lignes du TCSP.
Transport en commun en site propre, certains véhicules ont pu être réparés, mais le problème des pannes de batterie reste hélas récurrent, c'est le climat qui serait en cause. Le tout au grand dam du président de la Régie des transports de Martinique, Jean-Claude Duverger.
Le BHNS est une progression par rapport à ce qui existait. Quand on a vu l'évolution du BHNS, vous savez, le nombre de personnes, si ça peut prendre 100 personnes, on comptait dégager tout cela, mais on n'avait pas misé sur les pannes. On avait misé, bien sûr, sur un tableau d'amortissement qui permettrait de changer les BHNS à un moment précis. Mais la panne surprend, mais le fait que des techniciens viennent et qu'on puisse pas réparer nous surprend d'autant. On ne peut pas dire que la situation ne s'est pas améliorée. Je suis sûr que l'organisation du transport à la Martinique est dans la préoccupation de tout un chacun et qu'on va y arriver. Peut-être plus vite que le transport en France qui a pris 50 ans. Nous allons prendre notre temps, nous allons arriver, mais nous voulons toujours présenter nos excuses aux gens qui sont là, qui attendent. Donc moi j'étais sur une démarche sous les abribus, sous l'amélioration des conditions, etc. Et voilà qu'on est buté, qu'on bute sur une panne, quoi. Sur des pannes, et puis on ne peut rien faire, quoi.
Jean-Claude Duverger au micro de Fabrice Théodose. Direction la Guyane qui s'apprête à mener une lutte sans merci contre le psylle asiatique des agrumes, un redoutable ravageur. Des agrumes, citrons, oranges et autres mandarines. Écoutez Laura Demat de Pélors, elle est directrice de la Fédération d'études et de défense contre les organismes nuisibles. Elle est au micro de Bertrand Villeneuve.
La stratégie, ça va être d'une part de pouvoir repérer l'insecte et d'essayer de s'en débarrasser, et d'autre part d'éliminer les arbres qui sont suspects. Donc quand je dis éliminer, c'est couper vraiment à la base, laisser une souche uniquement et détruire la partie qui est malade. Alors ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est mettre en place un traitement pour enlever le psylle avant d'enlever l'arbre. Parce que sinon, quand on va vouloir enlever l'arbre, et ben le psylle il va aller sur l'arbre voisin. Donc d'abord on enlève le psylle et ensuite on enlève l'arbre. La maladie peut mettre 6 à 24 mois pour tuer la plante. Ça peut prendre du temps, mais c'est fatal. Et la problématique, c'est que tant que l'arbre est présent et contaminé, c'est un réservoir pour tous les arbres voisins. Il n'y a pas d'issue, donc il y a vraiment un intérêt collectif à ce que tout le monde soit en alerte sur le psylle et puis enlève les arbres malades pour freiner la maladie. Il y a des départements, donc la Guadeloupe, la Floride aussi, qui est un gros producteur d'agrumes, où il y a eu jusqu'à 80% de pertes.
Garopsil, bon après-midi, Michael, à demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, avoué aux équipes de La Première. Merci à Claude Battista, qui est à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. À demain.
Tous les jours.